9h42 à Paris, tout de suite le journal des sports. Et d'abord le foot, Victor Misestrano, comme chaque jour on se penche sur cette question, qui va remporter le prix Marc-Vivien Fauré 2025 ?
Jusqu'au 5 mai, RFI vous présente les 12 nommés pour ce trophée consacré aux meilleurs joueurs africains du championnat de France de Ligue 1. Et aujourd'hui, Babacar Diarra nous parle du capitaine de Strasbourg, le milieu international sénégalais Habib Diarra.
À Strasbourg, cette saison, la jeunesse a pris le pouvoir et le brassard. Habib Diarra, plus jeune capitaine de Ligue 1 à 20 ans, une évidence en interne dès l'entame de la saison, selon le coordinateur sportif du club alsacien et ex-Lion de la Teranga, Kader Mangan.
Malgré son jeune âge et sa troisième saison en Ligue 1, par rapport à notre groupe qu'on a estimé très jeune et qu'Habib était le seul joueur, on va dire, expérimenté avec son jeune âge et le fait de former au club. Et puis, il incarne aussi les valeurs du club, du groupe, avec un très bon état d'esprit.
Une joie de vivre qui fait la force d'un groupe strasbourgeois cosmopolite, où Habib Diarra, passé par Mulhouse dans son enfance, apparaît comme un local de l'étape. Milieu défensif, travailleur et polyvalent, il occupe aussi plus de place en sélection, à l'image de ses 3 buts en novembre dernier, preuve de sa capacité à transférer les attentes autour de son capitanat en club jusqu'au niveau international. Kader Mangan.
Il représente aussi notre pays. Donc je l'ai toujours dit que le fait d'être capitaine, déjà, il va avoir plus de poids en sélection du Sénégal, parce que quand il débarque avec un statut capitaine d'un club, le regard n'est pas pareil. Je suis passé par là et je lui ai dit de prendre son rôle de capitaine au sérieux.
Des conseils qui font aujourd'hui d'Habib Diarra un leader précoce et respecté.
Et qui font donc du Sénégalais l'un des prétendants pour le prix Marc-Vivien Fauré. Fera-t-il partie des 3 finalistes ? Eh bien, réponse lundi prochain dans Radio Foot International. Puis toujours en football, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Malgré sa défaite à Constantine 1-0, la RS Berkane, qui avait survolé le match aller, retourne en finale comme l'an dernier. Les Marocains qui viseront un 3e titre contre les Tanzaniens de Simba Sport, qui de leur côté n'ont jamais remporté cette compétition. Rendez-vous pour cette finale aller-retour les 17 et 25 mai.
Autre compétition continentale sur les parquets, la Basketball Africa League se poursuit à Dakar.
2e journée de la conférence Sahara hier et première défaite de l'ASC Dakar, battue par les Cap-Verdiens de Creole Star 66-63. Exploit de l'US Monastir contre le Petro de Luanda, tenant du titre 87-73. Et puis aux États-Unis en NBA, plus qu'une victoire et les Pacers du Camerounais Pascal Siakam rejoindront le 2e tour des playoffs. 3e victoire d'Indiana contre Milwaukee 123-103 la nuit dernière, avec 12 points pour le natif de Douala.
On termine par du cyclisme, ce sera à suivre dans Afrique Midi tout à l'heure sur RFI à 12h30. Temps universel, c'est le grand départ aujourd'hui du Tour du Bénin.
Une semaine de compétition au programme pour les plus de 80 participants, d'une course importante puisqu'il s'agit désormais de la seule épreuve en Afrique de l'Ouest qui a le label de l'Union Cycliste Internationale. Et puis toujours en vélo, mais sur les routes de Belgique, la formidable victoire hier de Kim Lecourt à Liège-Bastogne-Liège. À 29 ans, la Mauricienne devient la toute première africaine à remporter une grande classique du circuit mondial.
Merci Victor Misestrano. Au Ghana, au mois d'avril, la saison des pluies débute. Ce sont donc 5 millions d'habitants à Accra qui redoutent des inondations, avec à la clé des milliards de dollars de dégâts. Face à ce risque, amplifié par un urbanisme inadapté, mais aussi par une très mauvaise gestion des déchets, le gouvernement ghanéen a pris des mesures, mais pas sûr que ce soit suffisant. Victor Cariou est notre correspondant à Accra, il nous emmène. Reportage.
En cette fin de mois d'avril, la saison des pluies commence à se faire sentir au Ghana. Avec l'arrivée des premières averses, ce sont également de mauvais souvenirs qui émergent.
La situation devient très mauvaise ici quand il y a beaucoup de pluie. Tout est plein de boue et de saleté.
Gilbert Opoku, 40 ans, vit depuis une dizaine d'années à Adabraka, l'un des quartiers de la capitale les plus exposés aux inondations.
Ce n'est pas une situation normale. Les gens doivent quitter leur maison pour aller dans la rue. Ils n'ont même plus de vêtements. Ça ramène des moustiques et plein d'autres maladies. Le gouvernement ne fait pas assez pour nous aider.
Lui, comme l'ensemble des habitants d'Adabraka, garde tous en tête les inondations de 2015 où plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, le gouvernement ghanéen lance en 2020 le projet de développement intégré et résilient du Grand Accra, ou GARID, un chantier titanesque financé par la Banque mondiale à hauteur de 350 millions de dollars. Kwadwo Ohin et Sarfo, coordinateurs du projet, expliquent l'ampleur de la tâche.
Nous intervenons sur environ 13 ou 14 projets. Il s'agit de réorienter certains canaux, de doubler leur volume, d'augmenter leur débit et leur profondeur. L'un des points les plus importants est de s'assurer d'avoir un programme de dragage cohérent.
Le projet GARID prévoit également de s'attaquer à la gestion des déchets, essentiels pour éviter tout engorgement des canaux d'évacuation. Les travaux souffrent cependant d'importants retards, en cause des habitations illégales qu'il faudrait détruire. Une situation délicate selon le coordinateur du projet.
Ces gens vivent à la marge car ils n'ont pas les moyens de posséder une terre. Il y a donc le risque qu'ils reviennent. Il faut par conséquent trouver des endroits alternatifs où ils puissent aller.
Mais ce retard pris dans la lutte contre les inondations revêt également des causes plus politiques. C'est ce qu'a démontré Stephen Apia Tachi, chercheur spécialisé dans la planification urbaine et environnementale.
Si vous voulez construire en zone humide, vous devez normalement obtenir une permission du Parlement. Vous n'êtes pas non plus censé construire à moins de 30 mètres d'une zone humide. Tout cela n'est pas respecté. Nous avons donc de bonnes lois qui répondent aux critères internationaux. Mais la vérité est qu'elles ne sont pas appliquées. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui.
La conséquence, selon le chercheur, de litiges de propriété et d'institutions souffrant d'un grave manque de moyens. Autant de problèmes à résoudre pour que la capitale du Ghana cesse un jour de se faire submerger. Victor Cariou, Accra, RFI.
Accra, oui, il est 7h48, 9h48 à Johannesburg. L'Afrique du Sud, où le trafic de plantes a littéralement explosé depuis la pandémie de coronavirus. Plus d'1,5 million de végétaux pillés ont été saisis par les autorités sud-africaines depuis 2019. C'est déjà un problème majeur dans le pays, mais c'est d'autant plus inquiétant quand les plantes en question sont en voie d'extinction. C'est le cas de la Clivia mirabilis, une espèce très rare découverte il y a seulement 20 ans en Afrique du Sud. C'est notre dossier Afrique Économie ce matin et il est signé Claire Bargelès.
C'est un peu le bazar. Ici, nous entrons dans la pépinière des cycas et des plantes indigènes. Et nous avons tout un tas d'autres plantes intéressantes, comme ces clivias.
Les clivias dont parle Arnold Frisbee sont des plantes natives d'Afrique du Sud et qui se vendent désormais dans le monde entier pour leurs belles fleurs. Mais il en existe un type, dit mirabilis, soit miraculeux, qui ne pousse que dans un endroit précis de la province du Cap Nord. Même cette pépinière de l'université de Pretoria n'en possède pas. Il faut normalement un permis pour en cultiver, mais cette espèce rare fait désormais les frais de trafic. Plusieurs raisons expliquent qu'elle puisse se revendre très cher.
Il y a des collectionneurs qui veulent des Clivia mirabilis en raison de leur caractère unique. Mais on dirait que ce qui attire surtout, c'est la possibilité d'utiliser leurs caractéristiques via la pollinisation pour créer des espèces hybrides. Cela permet de concevoir de nouvelles plantes encore jamais vues en utilisant ces caractéristiques génétiques.
Près de 80% de Clivia mirabilis auraient disparu de leur habitat naturel, selon l'Institut local de la biodiversité. La chercheuse Karina Brewer s'est penchée sur ce trafic pour l'Institut des études de sécurité.
Il semble que les Clivia partent vers l'Asie et plus précisément vers la Chine. Donc soit les clients sont là-bas, soit les plantes sont envoyées sur place et ensuite revendues. Mais ce qui est sûr, c'est que comme pour le cas des plantes grasses, les Clivia ne sont pas récoltés pour le marché local sud d'Africains, mais bien pour l'international. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ces plantes quittent l'Afrique du Sud, elles ne sont plus protégées. Donc ce n'est pas nécessairement un crime de les importer, bien que ce soit illégal de les exporter d'Afrique du Sud.
Ces plantes sont désormais une espèce vulnérable dans le pays. Mais dans la région où elles poussent, les autorités manquent de ressources pour les protéger et la corruption est aussi un obstacle. Clayton Yonkers est le trésorier de la Société des Clivia.
En ce moment, il y a une vingtaine de personnes qui attendent d'être jugées et plus de 4000 plantes ont été confisquées. Mais le nombre exact de plantes qui se trouvent toujours dans leur habitat naturel n'est pas connu. Nous espérons que les autorités sur place pourront bientôt nous dire précisément combien il en reste.
Quant aux Clivia mirabilis récupérées, se pose aussi la question de leur stockage et de leur conservation car elles ne sont pas faciles à cultiver. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Afrique Économie sur RFI. Tout de suite, musique.
I'm
Notre choix musical sur RFI. Et ce matin, le groupe You Can Dance au top depuis 15 ans avec ses cocktails explosifs de musique éthiopienne traditionnelle et pop secoués par un rock garage anglo-saxon et un soupçon de jazz libertaire. La description est signée Carmen Lutzmann. Bonjour Carmen.
Bonjour Andréane.
Ce combo franco-éthiopien vient donc de concocter son 6e album intitulé Evil Plan. Que cache donc ce plan diabolique?
Tout simplement un mélange invraisemblable de 6 titres qui décoiffent, tout en rendant hommage à un groupe qui inspire You Can Dance depuis ses débuts. Vous avez peut-être reconnu sa signature, Andréane. C'est celle du légendaire groupe britannique de hard rock Black Sabbath, formé à Birmingham en 68. Face au contexte géopolitique actuel, You Can Dance revisite l'un de leurs morceaux iconiques. Damien Cluzel, bassiste, guitariste et compositeur-arrangeur de You Can Dance.
On fait une reprise d'un morceau de Black Sabbath qui s'appelle War Pigs, dont le texte est quand même un hymne anti-guerre. Il y a la guerre en Éthiopie, mais il y a la guerre partout chez nous. C'est un peu le réarmement général. C'est un morceau qui est vraiment d'actualité. Et je dis, si on le traduisait en amharique...
Le titre War Pigs, port de guerre en français. C'est peut-être la première fois, Carmen, qu'un morceau dans la pure veine du hard rock se retrouve traduit dans la langue officielle d'Éthiopie. Par qui?
Par l'une des grandes figures de la scène actuelle d'Addis Abeba. Il s'appelle Asnake Ghebreyes et fait partie de l'aventure You Can Dance depuis 15 ans. Ce chanteur charismatique maîtrise aussi bien le répertoire traditionnel de son pays que les codes de la création contemporaine, Andréane, et de l'éthio-jazz, donc ce genre né au début des années 60 dans les bars de la capitale.
Malgré qu'on ait un saxophone dans le groupe, on ne fait pas de l'éthio-jazz proprement parlé. J'ai quand même passé pas mal de temps là-bas, dans les bars, à écouter les musiciens. Et moi, j'ai toujours entendu la musique éthiopienne comme quelque chose de très rock, aussi dans l'intention. C'est aussi comme ça qu'on a commencé avec You Can Dance à faire des morceaux avec des gammes éthiopiennes, mais qui n'avaient rien à voir avec la musique éthiopienne proprement parlée.
Against the odds, comprenez, 4 à contre-courant ou contre vents et marées, ce morceau de You Can Dance, ce qui illustre parfaitement, Carmen, la détermination du groupe.
C'est en effet dans ces pièces purement instrumentales, Andréane, que les 4 Français au saxophone, à la basse, à la batterie et au clavier se montrent les plus féroces et déclenchent une véritable tornade de sonorités déchaînées, naviguant entre punk, noise, ethio-crunch et expérimental. Mais il propose aussi des chansons d'amour en langue amharique, évidemment. Et
toujours aussi inclassable, You Can Dance, même dans ses chansons d'amour.
Ah, c'est un groupe plein de surprises qui ne recule devant rien. Mon cri n'a pas été vain, chante-t-il dans Yene Felagote, un tube de pop éthiopienne qui ouvre l'album, affirmant une fois de plus leur engagement, sans oublier, petit indice dans le nom du groupe quand même, que You Can Dance incite aussi à la danse. Evil Plan, sixième album de You Can Dance, ça vient de sortir sous le label Compagnie 4000 et c'était notre choix musical ce matin. Merci Carmen Lunsman.
Merci Andréane.
Et à bientôt, c'est ainsi que se termine RFI Matin. Merci à vous de nous avoir suivis, la suite de vos programmes sur RFI. Dans deux minutes, le journal international, on va revenir sur les élections au Canada notamment. Ensuite, ce sera Appel sur l'actualité à 10h10. Bonjour Anne Gomez.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à toutes et à tous.
Au programme de l'émission aujourd'hui, le Bénin et cette question, comment relever le défi sécuritaire?
Oui, 54 militaires tués dans le nord du pays, un bilan sans précédent depuis que le Bénin est confronté aux attaques djihadistes venant du Burkina Faso et du Niger. Nous sommes à 10 jours que ce drame a eu lieu et le pays est toujours sous le choc. Le gouvernement promet de venir à bout de ces criminels. Alors, quelle doit être la riposte? On en parle évidemment ce matin. Vos réactions nous intéressent. Andréane, vous revenez demain?
Évidemment.
Dans la matinale de RFI. Reste avec nous dans moins de 2 minutes le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
maladies infectieuses émergentes, les défis de la recherche internationale.
Demain,
l'art thérapie, la création qui soigne.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça? Posez vos questions. Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 19h41 sur RFI. Ce lundi sur RFI.
Pourquoi l'inutile fait le charme du corps humain?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
À quoi servent les dents de sagesse ou l'appendice? Pourquoi certains ont une paire de côtes, une vertèbre ou un muscle supplémentaire? Comment les organes mal fichus, superflus, voire inutiles racontent l'histoire de l'évolution dans notre corps humain?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI et en podcast sur rfi.fr.